Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Étienne Fouillou, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques mois, j'avais le plaisir de vous recevoir afin que vous nous présentiez le premier volume du Journal de France, ce journal intime que Mgr Angelo Roncalli a tenu de manière très régulière tout le temps qu'a duré sa nonciature à Paris, c'est-à-dire de 1945 à 1953. Vous nous aviez alors rappelé le contexte difficile de cette arrivée en décembre 1944 du prélat bergamasque dans une France qui n'était pas encore totalement libérée, poche de La Rochelle, marche à l'est du territoire, notamment en Alsace. Vous aviez souligné aussi la difficile mission de l'ex-nonce à Ankara. Il avait d'abord pour mission d'éviter que l'épuration ne s'exerce aussi au sein de la hiérarchie catholique. Enfin, vous nous aviez expliqué comment la légitimité même de ce nonce avait paru remise en cause par différents groupes politiques, des communistes, ce que l'on peut comprendre, aux démocrates chrétiens. Vous revenez nous voir aujourd'hui à l'occasion de la parution toujours au cerf du second tome de ce Journal de France qui concerne les années 1949 à 1953. Vous ne m'en voudrez pas de remarquer que dès qu'on en a commencé la lecture, on s'aperçoit à nouveau immédiatement que ce volume est riche d'un appareil critique époustouflant. Alors j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes professeur d'histoire contemporaine et que vous avez longtemps enseigné à l'université Lumière Lyon 2. Alors Étienne Fouillou, comme je le disais, 3 années ont passé depuis que nous avons quitté Mgr Roncalli. Le nonce est finalement toujours en poste à Paris, ça n'avait pas paru gagné d'avance. Il a plutôt bien réussi à limiter l'épuration au sommet de l'Église de France, 3 évêques résidentiels seulement. Et il s'est peu à peu imposé dans le paysage diplomatique français, un paysage d'ailleurs dont il est le primus inter pares puisqu'il est devenu le doyen du corps diplomatique français.
Oui, et sa situation est très différente. Il est désormais assez reconnu. Les problèmes ne sont plus du tout les mêmes. Et en 1949, on en a une preuve évidente. L'archevêque de Paris, le cardinal Suard, meurt. Et il faut le remplacer, bien évidemment. Et qui trouve-t-on pour le remplacer ? L'archevêque de Bordeaux, Mgr Feltin, dont le siège était tout à fait précaire en 1945. Le général de Gaulle voulait son éviction et Roncalli l'a sauvé d'extrême justesse en disant « je mets ma barrette, hein, mon chapeau de nonce sur la tête de Mgr Feltin, et sinon je m'en vais ». Donc l'arrivée de Feltin à Paris en 1949 est une sorte de consécration pour lui, et il ne le cache pas, il dit « si on m'avait dit que je remplacerais le cardinal Suard par Mgr Feltin, 4 ans auparavant, je ne l'aurais pas cru ». Donc la situation est tout à fait différente, mais la situation de la France est aussi tout à fait différente, parce que l'accord de la résistance, il y a belle lurette qu'il est mort.
Il a volé en éclats.
Les communistes sont dans une opposition farouche à l'égard de la 4e République. Le général de Gaulle est aussi dans une opposition farouche à l'égard de la 4e République. Il a créé le Rassemblement du peuple français en 1947. Et les gouvernements de troisième force, les gouvernements intermédiaires qui allient des socialistes, des radicaux et des démocrates chrétiens sont extrêmement précaires entre ces deux forces-là. Le paysage politique français s'est sensiblement déplacé vers la droite et les hommes avec lesquels Mgr Roncalli est en contact sont beaucoup plus tolérants à son égard, même si les démocrates chrétiens se font encore un peu tirer l'oreille parfois, ils sont beaucoup plus tolérants à son égard qu'ils ne l'étaient en 1945, y compris et surtout, je dirais, les socialistes et les radicaux qui font théoriquement profession d'anticléricalisme. Il s'entend mieux avec eux, finalement, qu'avec des politiques chrétiens.
Oui, il va jusqu'à offrir à Vincent Auriol un volume du Don Camillo.
Absolument, oui.
Alors, donc, la situation du nonce est mieux assise. Pour autant, d'autres écueils surgissent. 3 plus particulièrement, sur lesquels on reviendra tout au long de cette émission, si vous le voulez bien. La question scolaire, dans un premier temps. la condamnation pour les catholiques et leur interdiction d'œuvrer avec les communistes, à replacer dans un contexte de guerre froide, et la déchristianisation de la France qui est de plus en plus visible, manifestement. Alors, si vous voulez, on va ne pas adopter un suivi chronologique et plutôt commencer par ce point que je soulevais, la question scolaire. Dans la multitude d'événements qui agitent ces périodes 1949-53, la question scolaire, elle est visiblement primordiale.
Oui, absolument. Et à partir du moment où justement il y a glissement vers la droite des majorités de la 4e République, et notamment après les élections législatives de 1951, où pour la première fois la droite classique, qui avait subi énormément les contre-coups de son ralliement ou du ralliement de bon nombre de ses chefs à Vichy, où la droite classique réapparaît, la question scolaire se pose, et elle se pose aux nonces dans des termes assez difficiles, parce que il est pour, évidemment, l'aide publique à l'école privée, mais il y a une sorte de surenchère autour de cette aide à l'école privée entre les démocrates chrétiens, les gaullistes du Rassemblement du peuple français et les indépendants, c'est-à-dire les modérés de l'entre-deux-guerres, incarnés dans la figure d'Antoine Pinay, avec lequel il s'entend très bien. Il trouve que c'est le meilleur chef de gouvernement que la France ait eu en 1951, un homme modeste, comme lui est modeste. Donc il y a une surenchère, et cette surenchère, on essaye de l'instrumentaliser avant les élections de 1951. On voit se succéder chez lui toutes les tendances, les trois tendances évoquées, et notamment les gaullistes qui font fermement le siège de l'annonciature. Et alors il est désolé de voir que paraît à la veille des élections dans le Osservatore Romano un article qui dit il faut voter démocrate chrétien. Et à ce moment-là, le frère du général de Gaulle, qui est président du conseil municipal de Paris, essaye de l'entraîner lors d'une cérémonie à dire des choses
qu'il n'a pas envie de dire.
Qu'il n'a pas envie de dire. Il dit le nom, c'est au balcon. Il regarde les choses. Mais il est désolé parce que lui, il pense, à juste titre, que seule l'union entre ces trois forces peut faire passer, cette fois contre les socialistes, contre la majeure partie des radicaux et bien sûr contre les communistes, des lois d'aide à l'enseignement privé qui sont finalement votées en la fin de 1951, les lois Marie et Barranger. Et lui qui aime beaucoup ses vacances à Soto il Monte ne part en vacances que lorsqu'il est sûr que les lois seront acceptées au Parlement français. Donc il a essayé de jouer un rôle non pas politique, mais il a essayé d'éviter les affrontements entre les forces favorables à l'enseignement privé. Il n'y est pas toujours parvenu. Il a fait d'ailleurs après le vote des lois, en rentrant de vacances, une sorte de grand repas où il a invité les différentes forces qui avaient œuvré dans ce sens-là. Il sent bien qu'on n'a pas obtenu tout ce que souhaitaient les défenseurs de l'école privée, mais il a joué un rôle non négligeable dans cette volonté d'union de centre et de la droite en faveur de l'école privée. Et par ailleurs, il était obligé de freiner les éléments les plus actifs du soutien à l'école privée parce que Rome lui disait.
Il est mandaté pour calmer les ardeurs
de Mgr Cazot, l'évêque de Luçon, et ses manifestations qui ont eu lieu surtout en 1950 avec menaces de grève de l'impôt, dans l'Ouest notamment. Et là, on le sent gêné, mais il a reçu de Rome des ordres nets. Il ne faut pas soutenir l'insurrection, même pacifique, contre la 4e République. Donc, pas de rôle politique au sens propre, il dit le nonce au balcon, mais un rôle souterrain non négligeable pour essayer de concilier les points de vue.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le pape, visiblement, préfère plutôt qu'un activiste de minorité, c'est ce que vous disiez, une espèce de réveil des consciences. Oui. Il voudrait que, finalement, on ait un clergé qui, d'un seul coup, soit entièrement uni sur cette question-là, une population de nouveau plus pratiquante, et que, dans une France qui soit une nouvelle chrétienté, cette question de l'école, elle soit tellement naturelle qu'elle ne soit pas simplement le combat d'une minorité. C'est demandé beaucoup, c'est un peu rêvé.
Bien sûr, parce qu'il y a il y a un décalage entre le rêve et la réalité. Et la, cette France-là, elle n'existe plus. Il y a des terres de chrétienté, il y a des morceaux de chrétienté en France, mais la France n'est plus un pays de chrétienté, à la différence à l'époque de l'Italie ou de l'Espagne.
Je vous cite une des notes de bas de page, on est en octobre 1950, c'est donc le nonce qui écrit, il est à Castel Gandolfo, il a vu le Saint-Père, et il écrit « Ce qui paraît le plus urgent est la formation d'une conscience nationale collective de l'épiscopat tout entier, du clergé et du laïcat catholique français. L'on ne pourra parvenir à une solution radicale si ce n'est par l'intermédiaire d'une législation nouvelle. Et pour que les écoles actuelles puissent vivre et que l'on puisse arriver plus rapidement à cette législation, il semble que la réunion compacte et organisée des énergies de la nation, si puissante qu'en l'anime un grand sentiment, réussirait à s'imposer de telle sorte qu'elle impressionne non seulement les catholiques pratiquants, mais aussi ceux qui dorment et même les moins catholiques, et annoncerait peut-être une époque nouvelle pour la France tout entière.
Oui, c'est tout à fait ça.
Alors donc, le problème se résout par le vote de ces deux lois.
Enfin, il se résout, il y a une, pour la première fois, en dehors d'origine l'épisode de Vichy, pour la première fois depuis la création de l'école de la République, des fonds publics, par un moyen, oui, des moyens un peu détournés, vont à l'école privée. Ce n'est pas une solution très large, enfin, qui englobe tous les problèmes. Il faudra attendre la loi Debré de 1959 pour que les choses soient établies de manière plus claire. C'est un peu détourné, mais c'est une première satisfaction pour le camp de l'école privée et une première alarme pour le camp de l'école publique qui proteste énergiquement, mais qui n'a pas réussi, qui n'a plus de majorité au Parlement, ni à mon avis dans le pays, pour imposer une laïcité restrictive en quelque sorte.
Alors, autre question qui se pose avec beaucoup d'acuité aux nonces, c'est devant cette montée du progressisme chrétien, est-ce que des catholiques peuvent continuer à collaborer avec les communistes ?
Oui, le problème se pose en France, mais il se pose surtout de manière très aiguë dans l'Est de l'Europe, sous domination soviétique. Et 1949, c'est la période des grands procès, c'est la période du procès Mindszenty, le cardinal archevêque de Budapest.
C'est la naissance de la RFA et celle de la RDA.
Absolument, oui. Donc c'est une année clé dans les guerres froides. C'est aussi l'année
du blocus de Berlin.
Du blocus de Berlin, de la bombe atomique soviétique. Donc vraiment, le problème se pose de façon très aiguë. Alors le nonce, il est classiquement anticommuniste. Il n'a aucune sympathie et même il est inquiet lorsque dans son propre village ou dans sa propre terre de chrétienté qui est le pays de Bergame, où il y a quand même un certain nombre d'usines, le communisme fait des progrès. À mon avis, il exagère beaucoup parce que si on regarde les résultats électoraux en Italie, dans cette région-là, les catholiques sont très largement majoritaires. Donc il n'est pas du tout favorable à une collaboration, et notamment il s'attache à essayer de raisonner un prêtre en particulier. On ne voit pas d'autres affaires importantes que celle-là dans ses agendas. C'est l'affaire de l'abbé Jean Boulier, ancien jésuite, professeur de droit international à l'Institut catholique de Paris, qui a adhéré au mouvement de la paix proche du mouvement communiste et qui non seulement y a adhéré mais écrit, va dans les congrès, etc. et qui a un certain nombre de difficultés avec l'archevêché de Paris, avec des hauts et des bas. Et on voit Roncalli essayer de le raisonner, non pas le condamner a priori, mais essayer de le raisonner, sans beaucoup de succès d'ailleurs. Et puis, donc il y a l'affaire Boulier, qui se résout temporairement par une suspension à Divinis, c'est-à-dire que Boulier est éjecté de sa chaire et plus ou moins réduit à l'état laïque. Bon, il reviendra à la fin de sa vie à l'intérieur du clergé, mais pour l'instant, c'est la rupture. Et Roncalli n'a pas réussi. Il est assez inquiet. On le voit même essayer de pousser l'archevêché de Paris à prendre des positions plus fermes. Mais quand tombe le décret du Saint-Office de juillet 1949 qui interdit, sous peine d'excommunication, maintenant tout le monde sait ce que veut dire excommunication, la collaboration avec les communistes, J'ai l'impression, je n'ai pas beaucoup de témoignages en dehors de ce qu'il en dit par deux fois dans son journal, j'ai l'impression qu'il cherche un peu à atténuer les
choses.
C'est
le sentiment qu'on a, oui. Il n'y a pas cette raideur, entre guillemets, hystérique qu'il y a chez le Saint-Père.
Enfin. Oui, oui, oui. Ah ben, Pie XII a très peur que le communisme triomphe en Italie. Là aussi, c'est un peu fantasmé parce que les communistes, à l'époque, ils font 30% des voix, enfin, aux élections législatives de 1948. Et Roncalli, lorsqu'il est interrogé, lorsqu'il a à parler en public juste après le décret, duquel il n'est pas prévenu, il le lit par la presse, hein, ce qui est quand même un peu curieux. Je pense que la secrétaire d'État aurait pu l'avertir, mais la secrétaire d'État n'était pas forcément non plus avertie du décret. Tardini se plaint que le Saint-Office ne l'ait pas bien informé. Et on a l'impression qu'il cherche plutôt à atténuer. Et quand ensuite il va en visite à Limina, lorsqu'il va voir Pie XII, Pie XII lui dit « La réaction des évêques français, elle n'est peut-être pas assez ferme. Enfin. » Mais il lui dit « C'est pas la peine d'insister maintenant, c'est passé. » Donc, c'est un homme de paix. Il n'est certainement pas favorable au communisme, il est même assez hostile, mais il ne souhaite pas envenimer les choses.
On le voit, d'ailleurs, vous citez un compte-rendu de Myron Taylor, qui est l'émissaire de Truman,
oui, auprès du
Saint-Siège, en France, et qui rencontre à Truman d'une rencontre qu'il a eue avec le nonce, dans laquelle il dit « Monseigneur Roncalli a décrit le récent développement non comme une nouvelle décision du pape, mais plutôt comme une sentence de la Sacrée Congrégation au sujet de la légitimité des relations d'un catholique avec le communisme. D'une manière analogue, il a fait remarquer que cette décision ne condamne pas le communisme en tant que moyen pour améliorer socialement et politiquement la façon de vivre de l'humanité, mais constitue seulement une condamnation de la base du communisme, de point, la négation des enseignements du Christ et de l'Évangile, la négation de la valeur de l'individu, la négation de tout concept de moralité. » Rien de nouveau.
Oui, c'est pas tout à fait vrai, parce que si on regarde le décret, il pose des problèmes considérables, parce que qu'en est-il d'un mari ou d'une femme mariée avec un communiste? C'est de la collaboration. Est-ce qu'il faut qu'ils divorcent? D'ailleurs, les évêques ont plutôt, sur ce plan-là, calmé les choses. Le Saint-Siège ne s'est pas bien rendu compte des effets, parce que c'est un décret qui était fait pour l'Europe de l'Est, en fait. Et il a eu un écho très important, surtout en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire surtout en Italie et en France, où les partis communistes étaient des partis importants et où le problème du progressisme chrétien se posait assez nettement.
Oui, parce que, c'est ce que vous disiez, l'épiscopat français offre en octobre suivant un commentaire plutôt atténué de ce décret.
Oui, oui, oui. Et il dit bien, ce commentaire, que la condamnation doit se compléter d'une affirmation de la doctrine sociale de l'Église, de la justice pour le monde ouvrier, etc. Je pense que Roncalli est d'accord avec ça. C'est pas un va-t-en-guerre. C'est pas un bout de feu. C'est au contraire un homme qui cherche à arrondir les angles à l'image de sa corpulence, enfin de son allure extérieure. Il est rond comme sa silhouette le montre.
Étienne Fouilloux, nous marquons une pause et nous retrouverons ensuite Angelo Giuseppe Roncalli.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Nous retrouvons Étienne Fouilloux qui vient nous présenter le second tome du Journal de France pour les années 1949-1953, le Journal de France du nonce apostolique Angelo Roncalli. Alors Étienne Fouilloux, on abordait tout à l'heure le problème de la collaboration des catholiques avec les communistes. Nous abordions aussi la problématique de la querelle scolaire. Il y a un troisième point qui est très présent dans ce second tome du Journal de France, c'est la lente déchristianisation de la France. Alors, on a aussi le sentiment effectivement, lorsqu'on lit les commentaires, les comptes rendus de ce nonce qui bouge beaucoup, qui voyage énormément en France, mais aussi à l'étranger, et qui va jusque dans, qui traverse la Méditerranée, puisqu'on le retrouve en Algérie et au Maroc. Il a une vision de la France qui est très pastorale, très rurale. Il est beaucoup plus à l'aise dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Il n'aime pas qu'on lui mette sous les yeux le problème de séminaires moins remplis, peut-être qu'avant la guerre, ou d'une déchristianisation qui progresse.
Absolument. Il est lui-même l'homme d'une chrétienté. Il est originaire du diocèse de Bergame, à côté de Milan, qui est une des régions les plus pratiquantes d'Italie. C'est vraiment un homme de la chrétienté du nord de l'Italie. Et ce qu'il aime le mieux en France, ce sont les chrétientés. D'ailleurs, il compare sans arrêt avec Bergame. Il dit c'est mieux ou c'est moins bien qu'à Bergame. Et donc, il est ravi en Vendée, en Ardèche, dans les Pyrénées-Atlantiques, là où il se retrouve en situation de connivence, en quelque sorte. Et ce sont pour l'essentiel des chrétientés rurales, en effet.
Le Grand Ouest, il aime beaucoup.
C'est vrai qu'il se promène énormément, ce qui chagrine les autorités françaises, au moins au début. Un nonce, en principe, c'est un diplomate, il doit rester dans sa nonciature, comme les ambassadeurs traditionnels, il n'a pas à voyager comme ça. Puis après, il s'habitue. Mais c'est vrai qu'il préfère, dans ses voyages en France, ses terres de chrétienté. Il visite tous les grands sanctuaires. Tous les grands saints français sont visités, les communautés religieuses masculines et féminines importantes. Et il y a une certaine gêne. Il va aussi dans les paroisses parisiennes du nord et de l'est de Paris. Il va aussi en banlieue nord et en banlieue sud. Il va aussi en Limousin, dans des régions beaucoup moins pratiquantes. Et là, on sent une certaine gêne. Et il l'exprime même. Par exemple, quand il va à Palaiseau, qui est une commune de cheminots du sud de Paris, la grande banlieue sud, à l'époque, il dit il y a 500 personnes dans l'église sur, je ne sais plus, 15 000 habitants. Il dit, et pourtant, le nonce est venu lui-même. Et il est un peu vexé qu'il n'y ait que 500 personnes par rapport à l'ensemble de la population. Et c'est pareil pour les paroisses parisiennes, Charonne ou autres, le 11e, le 12e, qui sont des zones moins ferventes que l'Ouest parisien. Il note, il y a tant de personnes à la messe sur une population qui est 10, 20, 20 fois supérieure. Et oui, là, il y a vraiment un sentiment, ça ne lui fait pas plaisir. Alors, il est assez réservé malgré tout sur les mouvements missionnaires qui cherchent à résoudre cette question. La France, la catholicité française après 1945 est en ébullition, il y a une quantité d'initiatives. Et ce nonce qui deviendra Jean XXIII, moi je l'ai trouvé moins ouvert qu'on ne le dit généralement. Le seul mouvement missionnaire nouveau qu'il soutienne de bout en bout, ce sont les frères missionnaires des campagnes. La fondation du père Épagnol, dominicain d'origine, qui a fondé pendant la guerre cette petite congrégation missionnaire justement pour aller dans les zones déchristianisées de la Brie, de Picardie. Cela, il les soutient vraiment, y compris peut-être même financièrement, matériellement. Mais vis-à-vis des mouvements à destination des ouvriers, ce qui frappe dans ce journal, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contacts. Il voit l'abbé Guérin, le fondateur de la JOC, de la jeunesse ouvrière chrétienne en France, quelquefois, mais il m'a semblé, on a beaucoup parlé à tort et à travers de son attitude à l'égard des prêtres ouvriers, dans un sens comme dans l'autre. Il m'a semblé, avec les notations que j'ai rassemblées que j'ai trouvées dans ce journal, qu'il était plutôt réservé à l'égard de l'expérience des prêtres ouvriers. C'est difficile à interpréter parce que je sais par ailleurs que le chanoine Hollande, qui était le responsable de la mission de Paris, qui comportait un bon nombre de prêtres ouvriers, a refusé de lui faire rencontrer des prêtres ouvriers en disant il ne comprendra pas. Donc il n'en a jamais rencontré. Mais il est allé une fois au séminaire de la mission de France à Lisieux et les propos qu'il a tenus étaient assez peu non pas critique, mais enfin un peu du ton de la plaisanterie, ils n'ont pas du tout plu aux gens aux séminaristes et aux professeurs. Et on le voit soutenir plutôt des initiatives comme les Frères de Saint-Vincent de Paul, qui depuis longtemps essayent de travailler en milieu ouvrier depuis le 19e siècle, mais qui sont beaucoup plus traditionnels. Et il y a quelques notations assez critiques. Il dit, sur le mode ironique, il ne faut pas croire que la mission de Paris va recristianiser comme ça le peuple parisien. Et puis il y a aussi une comparaison avec une petite communauté missionnaire féminine qui lui semble bien mieux adaptée. Et là, il y a quand même des réserves où il dit « Est-ce que les prêtres ouvriers se soumettront ?» C'est pas bien sûr. Donc, à mon sens, il n'est pas favorable, pas très favorable à l'initiative, mais il faut aussitôt ajouter une deuxième chose, c'est qu'il ne pousse pas à la condamnation. D'ailleurs, en aucun cas, il est critique aussi à l'égard du mouvement liturgique, mais il ne pousse pas à la condamnation.
On y reviendra, oui.
Et au contraire, il cache à Rome un certain nombre de choses, ou il ne dit pas tout ce qu'il voit.
On sent aussi une certaine tendresse pour l'œuvre des campagnes, par exemple.
Oui.
Quand on regarde qui vient dîner à l'Annonciature,
oui.
Ça fait partie des mouvements pour lesquels il y a une certaine tendresse.
Oui. Il faut faire une différence entre être reçu et dîner. Il reçoit tout le monde. Alors, de fait, on peut faire une sorte de tableau et on s'aperçoit qu'il est assiégé véritablement par des mouvements de droite, voire d'extrême droite à l'intérieur du catholicisme français qui essayent véritablement de faire son siège. Au début, ça marche, mais à partir des années 50, on le sent plus réservé. Enfin, il parle de ces gens avec souvent un esprit critique. Ceux qui sont reçus à déjeuner, ça c'est plutôt des amis, enfin, ou des gens qu'il aime bien voir. Et en effet, l'œuvre des campagnes, tout ce qui concerne les campagnes, enfin, il est véritablement lié à ce monde-là. Et
on est bien là quand même dans une forme de chrétienté traditionnelle.
Absolument.
Des solidarités anciennes.
Oui, et il a beaucoup de mal à... Il faut dire que c'est assez difficile à comprendre parce que la France est un peu une exception dans la catholicité de l'époque. Peut-être qu'en Wallonie, on trouverait des choses semblables. Mais il voit en France des choses qu'il ne verrait nulle part ailleurs et qui peuvent le surprendre et qui en effet le surprennent. Alors, à ces aspects sur la déchristianisation, on peut ajouter, en effet, j'y ai fait allusion, il n'est pas très favorable aux innovations liturgiques, à Saint-Séverin, pas très loin d'ici.
On en reparlera tout à l'heure, si vous le voulez bien, parce qu'il a effectivement, avec l'art sacré, un certain problème. Pour rester sur ce problème des différents mouvements qui surgissent dans la France de l'époque, il reçoit quand même, en janvier 52, c'est quand même quelqu'un qui souhaite rester informé. Il reçoit le chanoine Boulard, qui est l'auteur des Essors ou déclins du clergé français. C'est quand même un travail de sociologie tout à fait intéressant, oui. qui ne va pas lui montrer des choses qu'il a envie de voir particulièrement.
Non. Et puis, à l'époque, cette sociologie religieuse n'est pas très bien vue à Rome. Enfin, il faut véritablement l'entremise de Gabriel Lebras et d'un certain nombre d'autres pour que ces études sociologiques à Rome, on répond, on ne peut pas compter la foi. Donc, oui, il s'informe. Et ceux qui souhaitent que de l'information passe de l'Annonciature à Rome vont le voir. Mais le problème, c'est que tout le monde ne va pas le voir et que la gauche du catholicisme français n'a pas confiance en lui. Elle ne voit que l'aspect un peu rondouillard, bon enfant, les plaisanteries, le refus de répondre sur les questions importantes. Et il a assez mauvaise presse dans l'aile marchande de l'Église de France. Et donc, il y a des gens qui disent, de toute façon, c'est pas la peine d'aller le voir. Donc, sa vision, elle est quand même un peu décalée sur la droite, si on peut dire. Même si...
Vous en parliez avec le gouvernement Pinet tout à l'heure.
Oui.
Et alors, il en veut ainsi aux intellectuels français, parce qu'ils sont, pour lui, un peu responsables aussi de cette vision de la chrétienté de l'époque avec de manière un peu négative. Il y a un passage extraordinaire en décembre 1950, où il rend compte de sa journée du 20 décembre. Il s'agit de la réception de l'encyclique Humani Generis. Suisse. Mm-hmm. La manière dont la presse en parle ne lui plaît pas beaucoup. Alors il écrit, je cite, « Quelle arrogance ridicule de la part de ces petits jeunes diplômés qui ne sont pas encore sevrés et qui jugent sans critères ni fondement. Peu importe l'Église, c'est la science qui compte. »
Oui, absolument. C'est pas du tout un intellectuel. On lui prête, comme toujours, un certain nombre de phrases qui sont plus ou moins justes, mais enfin, sur Teilhard de Chardin, qui ferait mieux de faire le catéchisme aux petits-enfants, c'est pas dans le journal. Hein. C'est des choses qu'on lui a prêtées. Il est très réservé à l'égard des gens qui pose des problèmes en termes purement abstraits. Pour lui, c'est déjà, alors là, il y a une continuité, c'est le pastoral qui est essentiel. C'est le fait de s'occuper des gens, de la liturgie, le catéchisme, etc. C'est ça qui compte. Les grands débats intellectuels, ils n'entrent pas dedans et il faut suivre. Il faut cette encyclique d'août 1950 qui est assez restrictive sur le plan intellectuel. Bon, ben, il n'a pas compétence pour en juger, mais il n'admet pas qu'on la critique. Or, il y a à l'intérieur de l'intelligentsia catholique des réticences à l'égard de cette encyclique.
Le journal est ponctué de ces petites piques aux intellectuels. Deux ans plus tard, je le cite à nouveau, je crois que si malaise il est presque exclusivement dans les milieux intellectuels et dans les centres universitaires, à Paris, partout où il y a des jeunes qui remuent des idées, frémissent, s'impatientent, se cabrent, mais dans le pays lui-même, l'ordre et le bon sens règnent, l'équilibre et la retenue.
Oui, c'est une allusion à cet article du Monde.
Que vous citiez tout à l'heure.
Oui, y a-t-il un malaise dans le catholicisme français à la suite de toute une série de mesures romaines contre des intellectuels français. Et en effet, il ne comprend pas cet article, il pense qu'il est malvenu. Il en fait la preuve dans son journal. Et il le dira aussi à Rome, enfin... Rome qui a essayé de savoir qui avait écrit l'article, qui était anonyme, et jamais Boeuf-Méry n'a voulu donner le nom ou les noms. Nous ne savons toujours pas qui a rédigé cet article, qui est de 52, je crois, et qui était assez dur. Enfin, non, c'est pas du tout un intellectuel. Enfin, il est déjà pasteur, et d'ailleurs, il ne se comporte pas comme un diplomate traditionnel Il y a aussi chez les diplomates du Saint-Siège des aspects intellectuels, ils essayent de comprendre ce qui se passe un peu dans les idées dans le pays. Et quand on lui ménage des contacts avec des intellectuels, il y a un salon de Madame Amédée Ponceau où il est reçu. Et bon, le fait de rencontrer Raymond Aron ou André Siegfried, ça ne le bouleverse pas plus que ça. Enfin, c'est vraiment. Alors que. Faire cette visite pastorale de 8 ans, a dit un collègue italien, aller voir sur le terrain ce que sont les catholiques français, ça lui plaît, il aime beaucoup les grandes cérémonies, le faste, non pas pour lui, il dit c'est pour le pape, mais il aime bien voir la force du catholicisme, les gros bataillons, les grands pèlerinages, et tout ce qui va à l'encontre, le chagrin, finalement.
Alors, au terme de ces 8 années passées à Paris et de ces agendas si volumineux, on parvient sans trop de difficulté à esquisser la personnalité du nonce et à brosser un portrait. Même s'il ne confie pas tout, ce qu'il aime ou ce qu'il aime moins permet de voir un peu se dessiner ce nonce. Vous le disiez tout à l'heure, rien n'égale Bergame et tout est comparé à l'aune de Bergame.
Absolument.
Et il y a un passage amusant, il est en Italie, ils arrivent de Suisse, il est avec visiblement deux autres prêtres. Ils se sont arrêtés en route, la voiture est chargée de victuailles, visiblement extrêmement chargée. Lui-même écrit « Arrivé à Rome à 20h30, voyage excellent, rendu plus supportable par l'agréable compagnie. Pourtant, la Mercurie, donc c'est la voiture, la Mercurie était trop chargée à cause des provisions de fromage, de riz et d'huile faites en Italie. »
Oui, oui. Il n'a pas confiance dans la cuisine française.
Oui, c'est étonnant, ça. Alors, c'est un homme effectivement simple, rustique, il aime se coucher tôt, il n'aime pas l'étalage de richesse, il n'aime pas les femmes qui sont trop ostentatoires.
Oui.
Ça, il y a des commentaires un peu sévères.
Sur Eva Perón.
Et alors, il y a surtout des mots très durs. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, on peut peut-être l'argumenter avec différents exemples pris dans ce second tome. Il a un gros problème avec l'art sacré. Il y a des mots très très durs pour Germaine Richier. Oui. Il va voir la chapelle de Vence, la chapelle des Dominicaines, décorée par Matisse. Il n'aime pas du tout.
Pas du tout. Non, non, et il aime beaucoup Lisieux. La basilique de Lisieux, il y allait imposante, etc. Et il aime ce néo-baroque qu'il voit construire énormément en Italie, jusque sous Paul VI. Enfin, ces grandes églises néo-baroques, c'est ce qu'il aime. Et tout ce qui est art contemporain, alors là, il est prêt à demander une encyclique, enfin, pour critiquer, une encyclique qui critiquerait cette perversion, dit-il, du bon sens, etc. Et la visite de la chapelle de Matisse, c'est en 1951, est vraiment un échec complet.
Alors, il y a des artistes dont on pouvait penser qu'il lui plairait davantage. Je pense à Georges Desvalières, qui était proche des Dominicains, oui, qui est quelqu'un qui, justement, a beaucoup réfléchi à ce que Lacordaire a écrit sur l'art. On sait que l'ordre dominicain était proche des artistes. Alors, on présente en 1951, on organise une visite pour Mgr Racoli, on lui montre la chapelle des Missions qui est décorée par Desvalières, et là non plus, il n'aime pas du tout.
Non, non, non. Non, non, il a des goûts littéraires, artistiques et on peut dire philosophiques et théologiques extrêmement classiques. Il en est resté à sa théologie du début du siècle, même s'il a été un temps un peu soupçonné de modernisme. Enfin, c'est un homme de... Son grand homme, c'est Saint Charles Borromée. Enfin, c'est un homme qui, du Concile de Trente, qui veut faire appliquer la réforme tridentine. Et tout ce qui est moderne dans la culture contemporaine, il a du mal avec ça. Il a du mal avec Gide, il a même du mal avec Mauriac. Enfin, ça n'est pas du tout quelqu'un qui est à l'écoute de la culture de son temps. C'est pas son problème. Son problème est véritablement un problème pastoral. Et il se comporte, ce diplomate, qui n'est pas un mauvais diplomate, il se comporte en pasteur en France. C'est bien ce que lui reproche. Et ses supérieurs romains, parce qu'il n'envoie pas assez de dépêches diplomatiques, et le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur, qu'il trouve qu'il se balade bien trop en France, enfin, et qu'il va mettre son nez un peu partout. Alors, ça s'arrange, et même lorsqu'il va en Corse en 1952, il est logé à la préfecture, ce qui est une entorse à la loi de séparation de 1905. Mais bon, les choses se sont tout à fait améliorées. Mais dans l'aile marchande de l'Église de France, il laisse une trace assez négative. Et alors, le gros problème, c'est que ce nonce-là va devenir Jean XXIII, après l'épisode de patriarche de Venise.
Donc 5 ans plus tard.
Entre 53 et 58. Et quand il est élu en 1958, la plupart des Français de cette aile marchande sont catastrophés, en disant, il fait, au sens figuré, parce qu'au sens propre, il le fait, il ne fait pas le poids, enfin, il n'a pas la carrure.
C'est ce qu'on lui reprochait déjà lorsqu'il est arrivé à Paris.
Absolument. Alors, le problème que les historiens ne savent pas résoudre, il faudrait, je ne sais pas quel document, c'est quelle trace son passage en France a laissé dans son esprit. Toutes ces nouveautés qu'il voit en France, toutes ces expériences, toutes ces innovations, qu'est-ce qu'il en a gardé et quel poids est-ce que ça a dans les décisions qu'il prend à partir de 1959? Parce que il prend tout le monde à contre-pied. En 1958, quand il est élu, la droite, voire l'extrême droite catholique se réjouit et la gauche, entre guillemets, catholique se lamente. Et puis, 3 ans plus tard, c'est exactement l'inverse. les milieux traditionnalistes se plaignent que le Concile soit en train, selon eux, de révolutionner l'Église. Et pour l'aile marchande du catholicisme français, c'est une sorte de divine surprise, entre guillemets, en disant « on ne croyait pas ». Et pourtant, c'est le même homme. Et on ne peut pas dire qu'il y a une rupture entre le nonce à Paris et le pape. Et donc, quels sont les éléments de continuité en dehors? Alors, il y a de très forts éléments de continuité pastoraux. Donc, un pasteur plutôt qu'un pontife intellectuel, dogmatique, etc. Mais l'aggiornamento, la mise à jour de l'Église, ça vient bien d'une prise de conscience qui a quelque part un retard. Et est-ce que la France et le passage en France n'y est pas pour quelque chose? Mais nous ne pouvons travailler qu'avec les documents que nous avons et ce n'est pas dans ces agendas qu'on trouve la réponse. On ne trouve pas quelqu'un de très ouvert aux innovations, etc. C'est plutôt le contraire. Même si il ne veut pas de condamnation et il cherche à calmer les inquiétudes romaines très fortes sur le catholicisme français de l'époque. Et quand il va voir Pie XII tous les ans, il lui dresse un portrait qui est plutôt flatté par rapport à la réalité. Enfin, il lui dit « c'est pas si grave que ça », etc. Et il est très content de partir avant d'être obligé de transmettre la condamnation des prêtres ouvriers. C'est son successeur Marella qui est chargé de la tâche. Il est très content de partir avant. Et il le dit. Donc, il y a cette phrase assez étonnante dans une conversation avec Feltin. Je ne la dirai pas en latin parce que ça ne me revient plus comme ça, mais il dit « il faut voir beaucoup, corriger un peu et dissimuler aussi ».
Voilà. Ce en quoi il est un excellent diplomate. Il sait contourner l'obstacle, revenir et présenter les choses.
Oui, mais il n'informe pas... Il n'informe pas Rome de manière complète. Enfin, alors il sait qu'il y a beaucoup d'autres gens qui informent Rome à charge contre le catholicisme français, donc peut-être qu'il essaye de faire la balance. Mais je pense que, je suis sûr, alors là, que ses supérieurs n'ont pas une grande confiance en lui. Pie XII, c'est différent, mais les hommes de la secrétaire d'État, Tardini notamment, ne le considèrent pas comme un grand homme. Et quand il prend Tardini comme secrétaire d'État après son élection à la chaire de Pierre, Tardini a tendance à refuser en disant « Maintenant, vous savez bien ». Et Roncalli aurait dit, mais ça c'est toujours les on-dit, aurait dit ben, « Maintenant, éminence, c'est moi qui vais vous critiquer. » Alors que c'est vous qui m'avez critiqué pendant que j'étais nonce à Paris.
Alors il y a quelqu'un qui semble aller dans le sens de Tardini, c'est Vladimir d'Ormesson,
oui,
qui ne porte pas du tout dans son cœur Roncalli,
non,
qui le traite d'italiennissime.
Oui.
Et alors, vous citez ce passage qui est extrait, j'imagine, du journal de,
oui,
Vladimir d'Ormesson et qui date du moment du départ du nonce.
Qui est terrible, oui,
voilà,
passage.
Je cite ce passage. « Le départ de Paris de Mgr Roncalli va être salué d'un immense soupir de soulagement par le gouvernement, le MRP, l'archevêque de Paris et toutes sortes d'autres gens. Ce n'est pas un homme bête, bien loin de là, mais c'est l'italiennissime, dans le mauvais sens du mot, plein d'intrigues, faux bonhomme, pas sûr, esprit réactionnaire, sans envergure. Le ministère des Affaires étrangères le détestait. Il ne contribuait pas à donner au clergé et aux laïcs français une bonne image de Rome. Le clergé social le détestait. Il était teinté de reste de l'esprit d'Action française. Son départ de Paris est un bon débarras. »
Oui, c'est terrible et c'est partiellement faux. Enfin, de reste d'Action française, ça c'est archi faux. Il n'a jamais soutenu les milieux d'Action française, enfin ce qui en restait des milieux d'Action française. Italianissime, ça veut dire qu'il négocie.
Il y a un côté florentin ou médicis dans ce que lui reproche d'Ormesson.
Il garde des cartes dans sa manche, il dit pas tout. Oui, c'est. Mais je pense que le portrait est très, très à charge, outré, et que le même d'Ormesson, 2 ans après, je crois, il y a une dépêche où il dit « Ah, on parle maintenant de Mgr Roncalli comme possible candidat au pontificat, après tout, ça serait pas si mal. » Donc il y a, mais je pense que là, il y a un peu une réaction d'humeur, mais qui est assez caractéristique de ce que pensait Vladimir d'Ormesson. Ne fait pas partie de l'aile marchande du catholicisme français. C'est un homme très pondéré, etc. Mais visiblement, il n'a pas de bon rapport. Le Quai d'Orsay, il faut faire la différence entre Bidault et Schumann. Bidault détestait Roncalli, ça c'est très clair, et s'est affronté avec lui à la Libération, mais aussi en 1952, puisqu'il revient au Quai d'Orsay après la longue période Schumann. Il revient au Quai d'Orsay et il s'affronte à lui, notamment sur la nomination de Versailles, où il voulait nommer quelqu'un qui venait du diocèse de Nantes et qui était considéré par le ministère de l'Intérieur et par le Quai d'Orsay comme vraiment quelqu'un de très marqué à droite, qui finalement ne sera jamais évêque de Versailles, et c'est après lui qu'on trouvera Mgr Renard. Donc là, il se heurte à chaque fois que c'est Bidault, donc jusqu'en 1948 et à partir de 1952. Avec Schumann, c'est très différent. Schumann ne l'aime pas beaucoup, mais lui, il aime bien Schumann et il en ferait bien un cardinal laïc. Enfin, Robert Schumann. Alors qu'avec Maurice, les rapports sont plus difficiles. Je pense quand même que l'opinion d'Ormesson est assez exagéré, disons, par rapport à... Mais il s'est toujours mieux entendu avec des hommes politiques laïcs, qui soient socialisants, radicaux, comme André Marie, par exemple.
Ou Auriol, dont on parlait.
Ou Vincent Auriol. Ou de droite modérée, catholique, mais pas catholique militant. Pinet est un catholique
modéré, oui.
Qui va à l'église tous les dimanches, mais qui n'est pas un militant catholique. Il s'entend mieux avec ces gens-là qu'avec des gens qui font profession de catholicisme en politique. Enfin, les démocrates chrétiens, ça ne marche pas très bien, alors qu'en Italie... On le voit, il reçoit très favorablement le frère de Mgr Montini, qui est sénateur, qui est un personnage important de la démocratie chrétienne. En Italie, il est favorable à la démocratie chrétienne. Il est sur la ligne Montini, il n'est pas du tout sur la ligne du Parti romain, d'Ottaviani et de la Civiltà Cattolica, pour autant qu'on puisse voir.
Étienne Fouilloux, je vous remercie. Merci d'être venu nous présenter le second tome de ce Journal de France pour les années 1949-1953. Le Journal de France d'Angelo Giuseppe Roncalli, nonce apostolique à Paris, qui est apparu il y a quelques semaines aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
Merci à vous.